Alors ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Et notre texte sera les versets 13 à 18. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Et nous continuons notre série ce matin sans reproche. À son retour, c'est basé sur l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous avons vu déjà le chapitre 1, où est-ce que Paul nous parle justement de cette église modèle et sa marque, comment cette église avait justement marqué sa communauté. Nous avons vu aussi dans les chapitres 2 et 3 le pasteur modèle et son ministère, et Paul prendre le temps de justement parler de comment lui avait œuvré parmi les Thessaloniciens. Il nous a démontré son cœur de mère. Et aussi, il était pour eux comme un père spirituel. Dans le chapitre 4, dans les deux dernières semaines, nous avons vu le croyant modèle et sa marche, marcher dans la sanctification. Ensuite, il y a eu un message sur marcher dans l'amour. Et ce matin, notre message sera marcher dans l'espérance, des versets 13 à 18. On nous raconte l'histoire d'un jeune prédicateur inexpérimenté. On lui avait demandé un jour de faire un service funèbre pour un homme extrêmement pauvre qui n'avait ni amis, ni famille. Cet homme était décédé et on avait demandé à ce jeune prédicateur s'il voulait justement faire le service funèbre dans un cimetière pour les pauvres. Il a accepté et il est monté dans sa voiture et il est justement il est parti pour aller à cet endroit. Mais ne connaissant pas précisément l'endroit, il s'est trompé de chemin. Et fin de l'histoire, il s'est complètement perdu. Une heure plus tard, il est arrivé à un endroit qui semblait être le bon endroit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un trou dans la terre, il y avait une monticule de terre à côté. Il y avait aussi des pelles qui étaient à terre. Il y avait aussi des ouvriers qui étaient là, qui étaient assis sur un arbre en train de dîner. Et quand il s'est approché justement de la fosse, du trou, puis il regardait à l'intérieur, il a vu qu'il y avait déjà une plaque de métal qui avait été posée. Alors, se sentant coupable d'avoir justement manqué l'enterrement, il a décidé quand même de faire le service funèbre. Alors, il a prêché un sermon avec beaucoup de passion et assez long. Ensuite, il a entonné « Quel repos céleste !» Et finalement, il a terminé par une prière. Alors, se sentant satisfait de sa performance, il a retourné vers sa voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu l'un des ouvriers dire à l'autre, « Et ça fait plus de 20 ans que j'installe des fosses septiques et je n'ai jamais vu des choses pareilles. » Alors, ce matin, nous n'allons pas parler des fosses septiques. Nous allons parler plutôt de la mort, justement. Et nous allons parler aussi de ce moment où est-ce que quand la mort frappe. Vous savez que la mort ne fait pas de distinction. Pas de distinction de race, de couleur, d'âge. C'est une réalité de la vie. L'homme meurt. Et si le Seigneur ne sera pas de retour. Un jour, tôt ou tard, vous et moi, nous allons être à côté, justement, d'un trou dans la terre. Fort probablement, ici, ce matin, il y a plusieurs parmi vous, vous avez déjà expérimenté cela. Vous avez perdu un être cher. Vous savez qu'est-ce que c'est quand la mort frappe. Alors, la question, c'est quel sentiment devrions-nous avoir face à cela, face à cet ennemi redoutable. Peut-être aussi un jour, vous irez chez le médecin, vous allez avoir un mauvais rapport. Vos jours sont comptés, seront comptés. Le médecin vous donnera peut-être un mois, deux mois, six mois au plus. Comment est-ce que vous allez réagir face à cette mauvaise nouvelle? Quels devraient être vos sentiments face à cette situation? Vous savez, dans notre texte pour ce matin, il y a des gens aussi, des chrétiens, qui étaient face aussi de cette même situation. Et l'apôtre Paul va prendre le temps maintenant de leur écrire et leur dire comment ils devraient réagir et d'avoir des sentiments, une attitude qui convient justement à cette situation. Alors, lisons notre texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13. L'apôtre Paul va dire ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. J'aimerais vous donner le contexte de ce texte pour être capable de mieux comprendre ce qu'il en est. Paul va dire ceci. Si nous regardons encore le verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, dans un premier temps, au sujet de qui? Ceux qui sont décédés. Il y a des versions qui disent ceux qui dorment, d'autres qui vont dire ceux qui sont morts. Et le mot dormir, oui, ça convient très bien pour un chrétien. C'est comme un sommeil, on sait qu'on se réveille du sommeil. Et Paul va donc, à travers ce texte que nous avons lu, va le démontrer justement pourquoi la mort d'un chrétien, ceux qui sont morts en Christ, c'est comme le sommeil. Alors, ils disent, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et dans cette église, il y avait une certaine ignorance. Et ça menait aussi une grande détresse au sujet de ceux qui étaient décédés. Qu'étaient-ils devenus? Vous allez vous rappeler que Paul a passé seulement 3 sabbats. Dans cette église, il a été chassé suite d'une persécution intense. Alors, il est fort probable qu'il n'avait pas le temps justement de tout expliquer, bien approfondir toute la doctrine de Dieu. Et c'est pourquoi il va prendre le temps maintenant d'aller plus en détail. Alors, il y avait cette détresse. Les gens étaient affligés par le départ des croyants, des frères et des saints qui étaient morts. Les reverrait-il encore? Ça, ce n'était pas certain non plus. Et une autre chose aussi, le contexte dans lequel les Thessaloniciens vivaient n'aidait pas la situation. Vous allez vous rappeler que dans Actes chapitre 17, nous lisons qu'il y avait quelques Juifs, mais il y avait une grande multitude de Grecs, ça veut dire des non-croyants. Et dans la culture, voilà comment est-ce que ces gens voyaient justement la mort, les défunts. Quelqu'un avait dit ceci à un de leurs auteurs, « Personne ne se réveille et ne se lève après qu'elle a été rattrapée par la fin glaciale de la vie. » Après la mort, il n'y a pas de réveil. Après le tombeau, pas de rencontre de ceux qui se sont aimés sur la terre. Un autre a dit ceci, « Je n'étais pas, je suis devenu, je ne suis plus, je ne me soucie pas. » Ça, c'était écrit sur une pierre tombale païenne. Alors, ces gens-là, les contemporains, la culture à l'époque n'avait pas d'espérance. La deuxième chose aussi qui causait justement cette angoisse, cette affliction chez les Thessaloniciens, c'est parce que Paul leur avait dit, on voit dans le chapitre 1, il leur a dit, on sait comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et quoi, pour attendre des cieux son Fils. Et pour eux, Jésus pouvait revenir à n'importe quel instant. Il attendait d'un moment à l'autre. Et voilà, il y avait des frères et des sœurs qui décédaient. Et pour eux, ces frères et ces sœurs en Christ avaient raté justement le retour glorieux de Jésus. Et dans leur esprit, c'est comme s'ils avaient subi une perte irréparable. Alors ça, c'est aussi, ça causait de la tristesse dans le cas. Et là, vous voyez ici que j'ai écrit un genre d'équation. Quand on en est dans l'ignorance, ça nous amène à avoir un faux raisonnement. Et cela va donner quoi? La tristesse et le désespoir en ce qui concerne le contexte des croyants qui sont décédés, qui ont quitté cette terre. Mais l'apôtre Paul va corriger cette situation et il va parler justement de l'espérance chrétienne. Et nous avons déjà dit, et je vous rappelle encore une fois ce matin, que l'espérance biblique chrétienne, c'est une ferme assurance. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas je ne sais pas, c'est je sais. Pourquoi? Parce que cette espérance est en Dieu, qui ne ment point, et en ses promesses. On peut se fier là-dessus. On peut faire confiance à 100% parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Alors ce matin, j'aimerais alors avec vous regarder ensemble trois raisons d'avoir de l'espérance au sujet des croyants décédés. Quand vous serez un jour dans un tel contexte, si vous avez déjà aussi expérimenté cela. Alors, dans un premier temps, les défunts seront ramenés par Jésus. Regardez votre texte encore au verset 14. L'apôtre Paul va dire ceci, si, et ce n'est pas si on ne sait pas, c'est puisque, c'est définitif, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alors la première chose qu'il va leur dire, vous êtes en train de vous affliger parce que vous n'avez pas toute la connaissance. Et je vous le donne maintenant. Les décédés, les défunts seront ramenés par la puissance de Jésus. Et il base justement cette déclaration, cette affirmation sur deux choses. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Dans un premier temps, il y a cette assurance, cette base justement de l'espérance chrétienne. Il y a deux piliers solides. Dans un premier temps, Jésus est mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Jésus est-il mort? Mais la réponse, c'est parce que l'homme meurt. Séparation de Dieu qui vit à cause de sa désobéissance amène la mort. Genèse chapitre 2, verset 16, Dieu avait dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et le mal, vous n'en mangerez pas, parce que le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Ça, c'était justement la condition. Et nous savons qu'est-ce qui est arrivé. Adam et Ève, justement, ont pris du fruit défendu, et la sentence de mort est tombée sur eux. Pas la mort physique en ce moment-là, mais c'était la mort spirituelle, qui aussi est accompagnée par la mort physique. Romains chapitre 5, 12 nous dit ceci, « C'est pourquoi par un seul homme, il fait référence justement à Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché quoi la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors voilà la condition triste de l'homme. Notre condition à nous, aujourd'hui, l'homme meurt. Allez dans n'importe quelle ville et vous allez trouver des cimetières, vous allez trouver des pierres tombales, des columbariums, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, partout sur la planète, vous allez trouver justement des endroits parce que l'homme meurt. Mais la bonne nouvelle, Dieu n'a pas été pris par surprise. Et c'est un Dieu de grâce et de miséricorde et d'amour. Et il a mis en place justement un plan pour renverser justement cette sentence de mort qui est tombée sur l'homme. Il y a la substitution. Nous avons célébré ce matin le repas du Seigneur qui proclame croix à la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus a dit dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Quel contraste avec Adam, hein? Désobéissance, obéissance. Et Jésus a vécu une vie exemplaire, parfaite, sans péché, sans tâche. Et c'est pourquoi il a été justement qualifié d'être le substitut pour l'homme pécheur. Ésaïe 53 nous dit ceci, a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Christ aussi a souffert pour les péchés, lui juste, pour nous les injustes, afin de nous amener à Dieu. La bonne nouvelle ce matin, c'est que notre dette, le salaire du péché, c'est la mort, mais ça a été payé à la croix. Christ est mort pour nos péchés. Il y a aussi un deuxième pilier, c'est la résurrection. Et la résurrection, maintenant, vient mettre un sceau d'approbation sur l'œuvre de Jésus-Christ pour démontrer que Dieu est satisfait. La dette a été payée entièrement. C'est pourquoi Jésus, sur la croix, avant justement de remettre son esprit entre les mains de son Père, il a dit « Tout est accompli ». Et Dieu va démontrer cela, pour montrer maintenant sa satisfaction dans cette œuvre. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a ressuscité Jésus. Il est tombé vide. Jésus a été ressuscité d'entre les morts, glorifié, ça c'est le texte de Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, Christ est au ciel. Assis à la droite de Dieu le Père, un prince et un sauveur, il a vaincu la mort, il a payé notre dette. 2 Timothée 1, 10 nous dit ceci, que Christ, Jésus, a réduit la mort à l'impuissance. Et il a mis en évidence quoi? La vie et l'immortalité par l'Évangile. La bonne nouvelle alors, c'est justement cela. Et maintenant, la conséquence de cela, Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Alors, quand nous nous prenons notre place comme pécheurs devant Dieu, quand nous admettons que nous méritons la mort et l'enfer à cause de nos péchés, mais dans un acte de repentance quand nous nous tournons vers le Christ et nous admettons que oui, nous ne méritons rien que la mort et l'enfer, mais par la foi, nous saisissons l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et nous pouvons dire sans un ombre d'une doute, Christ a pris ma place à la croix. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Pour ceux qui croient en Jésus, non seulement la dette a été payée, mais la sentence de mort a été annulée et remplacée par la vie éternelle. Pourquoi nous avons des beaux versets qui nous donnent cette assurance, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ça c'est la mort éternelle, mais qu'il ait quoi, la vie éternelle. Jean 5,24 nous dit ceci, que Christ, en vérité, je vous le dis, celui qui croit, écoute ma voix qui se va dire, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et même si nous mourons physiquement, nous savons, comme Paul va dire à ses croyants, vos défunts, vos décédés, ceux qui sont partis, Dieu les ramènera. Parce que Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Il y a un beau cantique que nous chantons en anglais qui montre justement cela, quelqu'un qui a bien saisi justement ce message de la croix. C'est en anglais, mais je vais faire aussi la traduction. My hope, on parle ici de l'espérance ce matin. My hope is built on nothing less. Mon espérance ne repose sur rien d'autre than Jesus' blood and righteousness. Le sang de Jésus et la justice de Jésus. I dare not trust the sweetest frame. Je n'ose même pas mettre ma confiance dans qui que ce soit. Même si cette personne, c'est la personne la plus aimable, la plus gentille. But wholly lean on Jesus' name. Je m'appuie totalement sur le nom de Jésus. Et là, le refrain, on Christ, the solid rock I stand. Je me tiens sur Christ, le rocher solide. All other ground is sinking sand. Tout autour de moi, c'est comme du sable mouvant. All other ground is sinking sand. Ça, c'est quelqu'un qui a saisi le message de l'Évangile. Et qui sait qu'il est vraiment planté solidement sur le rocher. Ses péchés sont pardonnés. Il sait qu'il y a la vie éternelle. Et ce matin, je vous pose la question, si vous êtes ici, pouvez-vous chanter justement ce chant? Parce que vous avez mis votre confiance dans l'œuvre, la mort et la résurrection de Christ. Vous n'êtes pas en train de vous confier dans votre propre bonnes œuvres. La Bible nous dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Éphésiens 2,8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors c'est important, justement, pour avoir cette espérance. Si un jour vous êtes dans ce trou-là, vous savez que Dieu va vous ramener à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors Paul va rassurer ses chrétiens. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'angoisse, de vous affliger. Dieu ramènera par Jésus-Christ ceux qui sont décédés. Mais non seulement cela, deuxième chose, il va parler justement que les défunts seront ressuscités. Il va les ramener. Mais ça, maintenant, Paul va leur donner plus de détails. Comment ça va se passer? Et quand cela va se passer? N'oubliez pas qu'eux autres, ils pensaient que les décédés avaient raté justement le retour glorieux du Seigneur. Alors Paul va maintenant leur donner plus de connaissances en ce qui concerne cet événement glorieux. Et au verset 15 et 16, on relit ici, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, vous savez, tout ce qui reste, descendra du ciel. Il est mort. Il va le ramener maintenant à ceux qui sont décédés, les défunts. En Christ, ressusciteront. Ramenés à la vie, ramenés par Jésus, mais ressuscités par Jésus. Quand? La parousie de Jésus. Ce mot veut dire simplement l'arrivée, la présence. C'était utilisé dans l'Antiquité. Si un roi se déplaçait, allait d'un endroit à l'autre, et vous savez qu'à l'époque des monarques, quand ils allaient à un endroit, c'était avec pompe, il y avait tout le cortège qui le suivait, puis là, il y avait un héros, peut-être, qui était là, puis là, il y avait des trompettes, une fanfare, et on savait que le roi s'en venait, la parousie. Le retour glorieux du Christ à la fin des temps. L'apôtre va dire, ces défunts-là seront ramenés, mais seront ressuscités lors, justement, de cet événement. Et là, je vous ai donné, justement, qu'est-ce qui va entourer cela rapidement. Le Seigneur lui-même, lors de cet événement extraordinaire, pas Gabriel, même si c'est un archange extraordinaire, pas Michel non plus, Jésus lui-même va se lever de son trône pour venir chercher justement son Église, les défunts en Christ. Il va le dire en Jean 14, 3, « Je m'en vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Un signal donné, le mot dans l'original veut dire avec un cri, en anglais un shout, ça veut dire crier fort. Le parallèle, c'est avec Jean chapitre 11, où est-ce que vous avez la résurrection de Lazare, il y a un parallèle ici. Jean 5, 25, Jésus va dire que, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Fait référence à cela. Quand il est allé pour ressusciter Lazare, la parole de Dieu nous dit qu'il a dit, « Lazare, sors !» Quelqu'un a dit, lors de cet événement, s'il n'y avait pas dit Lazare, tous les morts seraient sortis de leur tombeau. Mais ça va y arriver en ce moment-là. Ça, c'est le temps. À la voix d'un archange, on pense qu'ici, avec Daniel chapitre 12, ça va être Michael. Parce que lui, en Daniel chapitre 12, on voit qu'il est dans un contexte de résurrection. Et au son de la trompette de Dieu, Exode 19, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait des trompettes pour Israël, pour les rassembler, justement pour sa rencontre. Et la même chose ici, dans cette événement-là, il va y avoir un rassemblement. Les gens de partout, le monde entier, vont être rassemblés lors de ce grand événement. Deuxième chose, il va y avoir des participants qui vont justement participer dans cet événement. Eux, ils pensaient que les morts, leurs décédés, leurs défunts avaient raté. Paul dit non, regarde bien. Les morts en Christ ressusciteront. Et là, il va y avoir résurrection et transformation. Comment ça va se passer? Ce texte ici, avec 1 Corinthiens chapitre 15, donne le portrait total. Paul va dire, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons quoi? Changés. La trompette sonnera et les morts ressusciteront. Alors, Seigneur revient, ceux qui sont auprès de lui, Paul va dire dans Philippiens 1, 23, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Alors, Jésus revient, il ramène aussi les esprits des défunts avec lui pour être justement avoir ce nouveau corps. Nous serons changés. Et ensuite, dans ce même élan, il va parler aussi des vivants. Parce que Paul, il se met là-dedans, vous voyez comment il dit, nous les vivants. Pour Paul, Jésus allait revenir pendant son vivant. Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Et là, il va y avoir transformation. Ceux qui sont vivants quand le Seigneur reviendra, seront transformés. Même chose dans 1 Corinthiens 15, 52. « Dès nous serons changés. » Et 1 Jean 3, 2 nous dit ceci, « Quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, parce que quoi, nous serons semblables à lui. » Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les vivants recevront aussi un nouveau corps. Et la troisième chose, il y a une priorité. Les Thessaloniciens pensaient que leur défunt avait raté. Mais Paul va dire, écoute, ils n'ont même pas raté, mais regarde ce qui va arriver. Dieu va leur donner une priorité. Les morts en Christ, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Alors, les défunts non seulement ne manqueront pas le retour du Seigneur, mais seront les premiers à participer dans cet événement. Il y a une application que j'aimerais faire en ce qui concerne ce texte ici, et je me reviens à 1 Jean 3, 2. Pour les croyants, les vivants, quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Il y a une application très pratique parce que le texte qui suit cela dit quoi? Celui qui a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. Est-ce que nous nous rendons compte qu'un jour, nous allons ressembler à Jésus-Christ. Nous allons être comme lui, un nouveau corps transformé. Alors, quelle devrait être notre attitude aujourd'hui face à ce moment glorieux, ce moment extraordinaire, quand on va être transformé à l'image de Christ, que ce soit pour nous une motivation aujourd'hui même, que cela ait un impact présent dans notre vie. Voilà ce que je vais devenir. Et maintenant, au présent, je me tends vers cela. Comment est-ce qu'on fait cela? Mais le Seigneur nous a donné justement la possibilité. 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi? Pour nous purifier de toute iniquité. Celui qui a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. Et troisièmement, je termine avec ceci. Les défunts, non seulement seront ramenés à la vie, non seulement seront restés par Christ, mais les défunts seront réunis avec leur bien-aimé et avec Jésus. Et nous avons vu la puissance de Christ, nous avons vu la parousie de Christ, mais aussi c'est le plaisir de Christ. Paul va dire ceci, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, la réunion. Ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui ont pleuré à côté d'un tombeau, qui ont eu des larmes, qui ont été tristes. Pouvez-vous imaginer la joie de ce moment, de retrouver les frères et les sœurs qui sont morts dans le Seigneur, retrouver un enfant, retrouver un parent, retrouver un frère, une sœur. Tous ceux qui sont dans le Seigneur, qui ont décédé, il va y avoir cette une réunion. On va les revoir. Deuxième chose, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On le chante parfois, « Vois mon Sauveur face à face. » Jean 14, encore, Jésus dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Job avait cette même espérance. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » et qui se lèvera le dernier sur la terre. Là, il parle de sa mort. Quand ma peau aura été détruite, moi-même, il a dit, moi-même, je verrai Dieu, je contemplerai Dieu. Mes yeux le verront un court et non ceux d'un autre, il me sera favorable. Là, il dit, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job, il avait hâte. Nous chantons parfois ceci, « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. » Oh joie, Ô bonheur, ô ineffable grâce. Ah là là. Félicité. Félicité, ô suprême grâce. Ô bonheur, félicité. Mais j'aimerais aussi vous apporter votre attention sur le Seigneur. Parce que c'est dit ceci, nous serons toujours avec le Seigneur. Psaume 16, 11 nous dit ceci, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Mais le Seigneur lui-même dans tout cela. On parle de ce jour, oui, on va être joyeux, on va voir le Seigneur, ça va être glorieux, mais le Seigneur lui-même. Cantique 3, 11 nous dit ceci, c'est un... Vous savez, le livre Cantique des Cantiques parle justement de Salomon et la Tsunamite, c'est une parallèle avec Christ et l'Église, selon les commentateurs. Et dans chapitre 3, verset 11, la Tsunamite va dire aux filles de Jérusalem, « Sortez et regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronnée le jour de ses fiançailles et le jour de la joie de son cœur. » Et là, je vois le parallèle ici. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle afin de croire, de la purifier, la sanctifier en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église, quoi, glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. J'imagine le Seigneur Jésus-Christ quand il va vous voir. Il est couronné de gloire et d'honneur. On sait cela. Mais ses regards ne seront pas sur sa couronne. Il va être sur son épouse. Sainte, irréprochable, glorieuse. Ésaïe 53 nous dit ceci. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il va voir des âmes. À sa ressemblance, il va dire, ça a valu la peine. Et Cantique 4.1, on voit comment cette idée continue. Salomon va dire justement à la Tsunamite que tu es belle, mon ami, que tu es belle. La joie du cœur du Seigneur, le jour où est-ce qu'il va rencontrer son épouse. Ah, ça va être extraordinaire. Sujet des défunts, connaissance plus foi. Oui, c'est normal d'avoir la tristesse. C'est normal. Mais, comme Paul va dire aux Thessaloniciens, ne vous affligez pas. Il y a l'espérance. Il va y avoir aussi la joie. Vous savez, quand on arrive à une conclusion d'un texte, souvent on cherche, mais comment est-ce qu'on peut terminer cela? Mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Le texte dit. Paul nous dit sa conclusion. Qu'est-ce qu'on fait justement avec ce que je viens de vous dire, les Thessaloniciens? Vous êtes dans une grande tristesse, vous êtes en train de vous affliger, mais écoute, je viens de vous donner l'espérance. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et vous savez, il y a plusieurs façons de consoler les gens qui sont dans la tristesse. On peut être présent, et c'est important. Combien de fois on va dans un salon funéraire et les gens vont nous dire « merci, merci d'être venu ». Juste notre simple présence. Des fois, juste de dire une parole aussi. Des fois, juste un toucher, un simple toucher sur l'épaule, une accolade, juste pour laisser savoir à cette personne qui est en train de souffrir qu'il y a l'empathie. Mais aussi, il y a des paroles, de la parole de Dieu qu'on peut dire aux gens. Vous avez perdu un être cher. Cette personne était un chrétien, une chrétienne, mais écoute, il y a de l'espérance. Et je finis avec cela. Les défunts revivront, ramenés par Jésus-Christ. Les défunts ressusciteront lors du retour de Jésus-Christ. Et les défunts seront réunis avec leurs bien-aimés, encore vivants, et tous seront avec le Seigneur pour l'éternité. Ça finira jamais. Un festin de joie, de plaisir et de réjouissance pour toute l'éternité. La semaine prochaine, Dieu voulant, si on n'a pas encore entendu la trompette, et on passe encore au ciel, nous allons regarder alors le deuxième message, marcher dans l'espérance. Le texte sera 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier alors pour ta parole, cette bienheureuse espérance que tu nous as donnée. Seigneur, à propos de ceux qui sont déjà partis, qui t'appartenaient, nous savons que nous n'avons pas à nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous allons les revoir un jour et surtout nous allons te voir. Seigneur, en attendant que nous puissions avoir cette attitude de ceux qui gardent leurs yeux fixés sur toi, sachant que tu peux revenir à n'importe quel instant. Alors, garde au cœur, Seigneur, et merci pour tant d'amour, tant de grâce, et merci pour cette bienheureuse espérance. Et on demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.